Chapitre 26. Martin Eden ne se mit pas en quête d'un travail le lendemain. Il n'émergea de son délire qu'en fin d'après-midi et promena dans la pièce des yeux hagards. Marie, une fillette de 8 ans de la tribu Silva qui le veillait, poussa un cri en le voyant revenir à lui. Maria accourut de la cuisine, posa sa main calleuse sur le front de Martin et lui tâta le pouls. « Vous voulez manger ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête. Manger était la dernière de ses envies et il douta d'avoir jamais eu faim de sa vie. « Je suis malade, Maria, » dit-il d'une petite voix. « Qu'est-ce que c'est ? Vous le savez ?»«
La grippe, » répondit-elle. « Dans 2 ou 3 jours, ça ira mieux. Vaut mieux rien manger maintenant. Après, vous pourrez manger tout plat. Demain, peut-être. »
Martin n'avait pas l'habitude d'être malade et quand Maria et sa fille le quittèrent, il essaya de se lever pour s'habiller. Au prix d'un suprême effort de volonté, avec un mal de crâne térébrant et des yeux si douloureux qu'il n'arrivait pas à les garder ouverts, il parvint à s'extraire de son lit, mais ce fut pour s'affaler sur la table. Au bout d'une demi-heure, il retourna se coucher et resta étendu, les paupières closes, vaincu par sa faiblesse et ses innombrables courbatures. Maria entra à plusieurs reprises pour changer les compresses sur son front. Le reste du temps, elle le laissa en paix, trop sage pour risquer de le fatiguer avec d'inutiles bavardages. Ému par tant de sollicitude, il murmurait dans son délire « Vous l'aurez, votre ranch, Maria, avec des vaches et tout et tout. » Puis il se souvint de la journée de la veille comme d'un lointain passé. Il lui semblait avoir reçu la lettre du Transcontinental depuis une éternité ou dans une autre vie. La page était tournée. Il avait tiré un trait sur tout cela. Il en avait fait son deuil. S'il eût mangé à sa faim, il n'eût pas succombé sous les coups de Dame Grippe. Il en avait trop fait, et les forces lui avaient manqué pour repousser le germe de la maladie qui avait envahi son organisme. Et voilà le résultat. À quoi bon s'échiner à remplir une bibliothèque avec des pages d'écriture, si c'est pour y laisser sa vie, dit-il à voix haute. Très peu pour moi. Fini la littérature. Ah ! Un bureau, des livres de comptes, un salaire de rond de cuir, vite ! Et une petite maison avec route. 2 jours plus tard, l'estomac lesté d'un œuf, de 2 tranches de pain grillé et d'une bolée de café, il demanda son courrier, mais il avait encore trop mal aux yeux pour lire. « Lisez pour moi, Maria, » dit-il. « Laissez tomber les longues lettres épaisses, jetez-les sous la table. Lisez-moi les petites. »« Peux pas, » répondit-elle. « Teresa, elle va à l'école, elle sait lire. » Ce fut donc Teresa Silva, âgée de 9 ans, qui ouvrit ses lettres et les lui lut. Il écouta distraitement la complainte du loueur de machines à écrire, c'était déjà de l'histoire ancienne, il allait changer de carrière. Soudain, une phrase le tira de sa torpeur. « Nous vous offrons $40 de droit pour votre histoire, annonçait Teresa, à condition que vous nous autorisiez à faire quelques modifications.
« C'est quelle revue, ça ? » s'exclama-t-il. « Vite, donne-moi ça !»
Il pouvait lire maintenant, tant pis si ses yeux lui faisaient mal. C'était le White Mouse qui lui offrait ses $40 pour « Le tourbillon », une autre de ses histoires d'épouvante. Il parcourut la lettre 2 fois d'un bout à l'autre. Le rédacteur lui expliquait sans détour que l'idée était mal exploitée, mais qu'ils étaient néanmoins désireux de la lui acheter parce qu'ils la trouvaient originale. S'il leur permettait de couper 1/3 du texte, il le prendrait et lui enverrait $40 par retour du courrier. Il demanda une plume, de l'encre, et répondit au rédacteur qu'il pouvait en couper les 2/3 s'il le jugeait bon et lui envoyait les $40 sans hésiter. Il pria Teresa d'aller aussitôt poster la lettre et se recoucha, songeur. Ce n'était pas un mensonge, finalement. Le White Mouse payait à l'acceptation du manuscrit. Il y avait 3 000 mots dans le tourbillon. Après coupure, il en resterait 2 000. $40 pour le total correspondait bien à 2 cents le mot. Paiement à l'acceptation, 2 cents le mot, les journaux avaient dit vrai. Et lui qui croyait que le White Mouse était une revue de 3e ordre, il n'y connaissait rien, c'était évident. Le Transcontinental, qu'il tenait pour une publication de première classe, payait 1 cent les 10 mots, quand le White Mouse, qu'il prenait pour un torchon, payait 20 fois plus, et à l'acceptation. Eh bien, une chose au moins était certaine, il n'irait pas chercher de l'embauche quand il serait rétabli. Il avait la tête pleine d'histoires aussi bonnes que le tourbillon, et à $40 l'une, il gagnerait bien plus que dans n'importe quel autre emploi. Au moment où il avait cru la bataille perdue, il apprenait sa victoire. Il avait fait ses preuves. Une vraie carrière s'ouvrait à lui. Le White Mouse n'était qu'un début. D'autres magazines s'ajouteraient à la liste de ses mécènes. Adieu, les vers de Mirliton qui ne lui avaient pas rapporté un seul dollar. Désormais, il se consacrerait à des œuvres de qualité dans lesquelles il mettrait le meilleur de lui-même. Il eût voulu que Ruth fût là pour partager sa joie. Dans le tas de lettres éparpillées sur son lit, il en trouva une pleine de tendres reproches, dans laquelle elle s'inquiétait des raisons de sa si longue absence. Il la relut avec adoration, s'émerveillant de son écriture, tombant amoureux de chaque coup de plume, et pour finir, baisa sa signature. Il lui répondit en toute sincérité qu'il avait évité de la voir parce que son plus beau costume était gagé. Il ajouta qu'il avait été malade, mais qu'il était presque remis, et que dans 10 ou 15 jours, le temps que mettait le courrier à voyager jusqu'à New York et revenir, il récupérerait son costume et lui rendrait visite. Mais Ruth n'était pas disposée à attendre 10 jours en sachant son fiancé malade. Le lendemain après-midi, accompagnée d'Arthur, elle arriva dans l'équipage des morses, au grand ravissement de la tribu Silva et de tous les gamins de la rue, et à la consternation de Maria, qui distribua des gifles à la ronde pour dissiper la marmaille agglutinée sur le perron et tenta de s'excuser du négligé de sa mise dans un anglais abominable. Ses manches retroussées sur ses bras savonneux et la toile de jute mouillée qu'elle portait nouée autour de la taille révélaient la besogne qui l'accaparait. Elle fut tellement éberluée de voir un si beau monsieur et une si belle demoiselle mander son locataire qu'elle en oublia de les introduire dans le salon des visiteurs. Pour atteindre la chambre de Martin, ils durent traverser la cuisine, transformée en étuve par les buées de la lessive. Dans sa fébrilité, Maria oublia l'antagonisme des portes, celle du placard et celle de l'entrée, et coinça les deux battants, si bien que 5 minutes durant, des nuages de vapeur et des effluves de savon pénétrèrent dans la chambre du malade par l'entrebâillement. Ruth parvint sans encombre à tourner à droite, puis à gauche, puis encore à droite, et à se faufiler dans l'étroit passage entre la table et le lit pour accéder au chevet de son fiancé. Mais Arthur vira trop large et buta contre les poêles à frire et autres récipients qui constituaient la batterie de cuisine de Martin. Il ne s'attarda pas. Ruth occupait l'unique chaise, et son devoir accompli, il sortit pour attendre devant le porche, où il devint sujet de curiosité pour les 7 Silva, qui l'observèrent comme un bibelot rare dans une vitrine. Tous les enfants du voisinage s'étaient rassemblés autour de l'attelage, guettant quelque tragique dénouement. Dans le quartier, on ne voyait de voitures à chevaux que pour les mariages et les enterrements, et, comme il ne s'agissait ni de l'un ni de l'autre, il supposait qu'un événement exceptionnel se préparait. Martin était tout exalté de voir Ruth. L'amour formait l'essence même de sa nature et il avait un profond besoin de tendresse. Pour lui, tendresse signifiait compréhension et il se méprenait encore sur l'attitude de Ruth, chez qui la tendresse était plutôt une forme de sentimentalisme inhérente à son tempérament profondément bon. Tandis que Martin bavardait joyeusement en lui tenant la main, elle avait envie de fondre dans ses bras et sentait ses yeux se mouiller en regardant les marques morbides que la souffrance avait imprimées sur son visage. Il l'informa des 2 acceptations qu'il avait reçues, lui raconta son désespoir à la réception de la première et la joie que lui avait procurée la lettre du White Mouse, mais elle ne l'écoutait guère. Elle entendait les mots qu'il prononçait, comprenait leur sens, mais ne partageait ni son désespoir ni sa joie. Ces questions-là ne l'intéressaient pas. Ce qui importait à ses yeux, sans qu'elle s'en doutât, c'était le mariage. Et elle ne se doutait pas davantage que son désir de voir Martin à la tête d'une belle situation lui était dicté par l'instinct de la maternité. Elle eût rougi de se l'entendre dire en termes crus, se fût indignée et eût affirmé sans embâge que son seul souci était le bonheur de l'homme qu'elle aimait. C'est pourquoi, tandis que Martin lui ouvrait son cœur, enthousiasmé par ses premiers succès dans la carrière qu'il avait choisie, elle ne l'écoutait que d'une oreille distraite, en promenant des regards épouvantés autour de la pièce. Elle contemplait, pour la première fois de sa vie, le vrai visage de la pauvreté. Les amants miséreux lui avaient toujours semblé romantiques, car elle n'avait aucune idée de la façon dont vivaient les amants miséreux. Elle avait imaginé la chose tout autrement. Les odeurs de linge sale et fumant qui parvenaient de la cuisine l'écœuraient. Martin devait en être imprégné jusqu'aux os si cette horrible femme passait son temps à faire des lessives. La crasse était contagieuse. Un tel environnement risquait de déteindre sur lui. Elle l'avait toujours vu rasé de près et sa barbe de 3 jours la rebutait. Non seulement cela lui donnait l'air d'appartenir à la sordide maison Silva, mais cela renforçait cette impression de force animale qu'elle détestait. Et voilà que ces 2 lettres d'acceptation, dont il lui parlait avec tant de fierté, allaient le renforcer dans sa folie. Encore un peu de ce régime-là, et il eût renoncé à la littérature pour prendre un vrai métier. Désormais, il allait continuer à vivre dans cette affreuse bicoque où il écrirait à se ruiner la santé pendant des mois encore. « Quelle est cette odeur ? » demanda-t-elle tout à coup. « La lessive de Maria, je suppose, » répondit-il. « J'y suis tellement habitué que je n'y fais plus attention. »« Non, non, pas ça. C'est autre chose. Une odeur diffuse, nauséabonde. »
Martin huma l'air de la pièce. « Je ne sens rien d'autre, » fit-il, « à part une vieille odeur de tabac froid. »«
C'est ça. C'est horrible. Pourquoi fumez-vous autant, Martin ?»«
Je ne sais pas. Je fume davantage quand je suis seul. Et puis c'est une longue habitude, j'ai commencé très jeune. »
« Eh bien, c'est une vilaine habitude, savez-vous. Cette odeur, ça tient au tabac. Je ne peux acheter que du gris.
Mais attendez que j'ai touché ces $40 et j'achèterai un tabac qui n'incommodera même pas les anges. Ce n'est pas mal tout de même, dites. 2 manuscrits acceptés en 3 jours. $45 qui me permettront de rembourser toutes mes dettes.
Pour 2 ans de travail ?
Non, pour moins d'une semaine de travail.
S'il vous plaît, passez-moi ce livre à l'autre bout de la table, le livre de compte avec une couverture grise.
Il l'ouvrit et se mit à en tourner rapidement les pages.
Oui, c'est bien ça.
4 jours pour le son des cloches, 2 pour le tourbillon.
Ça fait $45 par semaine, soit 180 par mois, mieux qu'un salaire d'employé. Et encore, je ne fais que commencer. Il me faudra bien $1000 par mois pour vous offrir tout ce que je veux que vous ayez. Un salaire de 500 ne me suffirait pas. Ces $45 ne sont qu'un début. Attendez que j'ai atteint ma vitesse de croisière et observez bien mon panache de fumée.
Ruth ne comprit pas sa métaphore et revint aux cigarettes.
« Vous fumez déjà plus que de raison et la marque du tabac n'y changera rien. C'est le tabac en soi qui est mauvais, peu importe sa provenance. Vous êtes une cheminée ambulante, un volcan vivant. C'est très mal élevé, mon chéri, vous savez. »
Elle se pencha vers lui avec un regard suppliant. Et comme autrefois, il se sentit indigne d'elle en contemplant ses yeux purs et limpides.
« Je voudrais que vous cessiez de fumer, » chuchota-t-elle. « S'il vous plaît. Pour l'amour de moi.
C'est bon, j'arrêterai, s'exclama-t-il. Je ferai tout ce que vous demanderez, mon amour, tout, vous le savez bien. Elle faillit succomber à une grande tentation. En le voyant de si bonne humeur, elle eut la conviction que, si elle lui demandait maintenant d'arrêter d'écrire, il exaucerait son vœu. Les mots tremblèrent sur ses lèvres, mais elle ne les prononça pas. Le courage lui manquait encore, elle n'osait pas vraiment. Elle se glissa dans ses bras et murmura «
Vous savez, ce n'est pas vraiment pour moi que je vous le demande, Martin. C'est pour votre bien. Je suis sûr que la fumée vous fait du mal, et ce n'est jamais bon d'être esclave de quelque chose, surtout d'une drogue. »
« Je serai toujours votre esclave, » dit-il en souriant. « En ce cas, je vais commencer à donner mes ordres. » Elle le regarda malicieusement, mais en son fort intérieur, elle regrettait déjà de ne pas lui avoir soumis sa vraie requête. « Je ne vis que pour vous obéir, Majesté. »«
Bien, alors, mon premier commandement est « Tu n'omettras point de te raser chaque jour. Regardez comme vous m'avez piqué la joue. »
Et cela se termina par des caresses et des cajoleries. Mais elle avait marqué un point. Avoir obtenu qu'il cessât de fumer était une première victoire pour son orgueil de femme. La seconde viendrait en son temps. Elle saurait bien aussi le persuader de chercher une situation. Ne lui avait-il pas dit qu'il ferait tout ce qu'elle lui demanderait ? Elle quitta son chevet pour explorer la chambre, examina les notes de lecture suspendues aux cordes à linge, s'étonna du système d'accrochage de la bicyclette et s'attrista devant la pile de manuscrits abandonnés sous la table, ses témoins du temps perdu. Le réchaud à pétrole fit son admiration, mais, en inspectant les étagères du buffet, elle les trouva vides.
« Mais vous n'avez rien à manger, mon pauvre chéri ?»
dit-elle avec une tendre compassion.
« Vous devez mourir de faim ?»
Il mentit. « Je range mes provisions dans le garde-manger de Maria. Elle se conserve mieux. Pas de danger que je dépérisse.
Regardez ça. »
Elle était revenue vers lui et le vit contracter son biceps sous sa manche de chemise. Le spectacle de ce muscle saillant, dur et noueux, la rebuta. Sentimentalement, cela lui déplaisait, mais son pouls, son sang, toutes les fibres de son être réagirent différemment et inexplicablement attirées. Elle s'approcha de lui au lieu de s'en écarter. Quand il la prit dans ses bras, son intellect, ses préjugés se révoltèrent, mais son cœur et la femme qui était en elle exultèrent. C'était dans ces moments-là que son amour pour lui était le plus fort. Elle était près de se pâmer de délices lorsqu'elle sentait ses bras puissants l'entourer et la serrer avec une ferveur qui lui faisait presque mal. Et c'était dans ces moments-là qu'elle trouvait une justification à la trahison de ses principes, à la violation de ses idéaux et surtout à la désobéissance tacite qu'elle opposait à sa mère et à son père. Ils ne voulaient pas qu'elle épousât cet homme. Ils étaient choqués qu'elle pût l'aimer. Elle en était elle-même choquée, parfois, quand elle était loin de lui et redevenait une créature froidement raisonnable. Près de lui, elle aimait, d'un amour contrarié, tourmenté quelquefois, mais qui n'en était pas moins de l'amour, et un amour plus fort qu'elle. « Cette grippe n'est rien du tout, disait-il. Elle m'ankylose et me donne des migraines, mais ce n'est rien à côté de la fièvre jaune. » « Vous avez eu ça aussi ? » fit-elle distraitement, tout au bonheur d'être dans ses bras. Et elle le laissa continuer, en lui posant de vagues questions, jusqu'au moment où une phrase la fit sursauter. Il avait contracté les fièvres dans une colonie secrète de 30 lépreux sur une île hawaïenne. « Mais pourquoi y êtes-vous allé ? » Une telle imprudence lui semblait criminelle. « Je n'en savais rien, » répondit-il. « Je n'avais jamais pensé aux lépreux. Dès que j'ai posé le pied sur la plage après avoir déserté la goélette, je me suis enfoncé à l'intérieur des terres pour me cacher. Pendant 3 jours, j'ai vécu de goyaves, de pommes d'oya et de bananes que je cueillais dans la jungle. Le 4e jour, j'ai trouvé la piste, un simple chemin de terre qui montait vers les collines. Il y avait des traces de pas récentes. Par endroits, le long de la crête, elle était étroite comme une lame de couteau. Et de chaque côté, c'était un précipice de 100 mètres de haut. De là-haut, un homme seul, avec assez de munitions, aurait pu résister à tout un bataillon. Je n'avais pas d'autre chemin pour trouver une cachette. Après 3 heures de marche, je me suis retrouvé dans une petite vallée volcanique entre des pics de lave. Elle était étagée en terrasse pour la culture du taro. Il y avait des arbres fruitiers et une dizaine de huttes en herbe. Mais dès que j'ai vu les habitants, j'ai compris sur quoi j'étais tombé. Un seul coup d'œil a suffi. « Qu'avez-vous fait ?» demanda Ruth, haletante et attentive, épouvantée et fascinée à la fois, comme toutes les Desdémones de la Terre. « Il n'y avait rien à faire, » dit-il. Leur chef était un brave vieillard, en piteux état mais respecté comme un roi. Il avait découvert la petite vallée et fondé la colonie, ce qui était contraire à la loi. Mais il avait des armes, des munitions, et ses indigènes entraînés à la chasse aux sangliers étaient de fins tireurs, non ? Aucun moyen de fuir pour Martin Eden. Il y restait 3 mois.
Comment vous êtes-vous échappé ?
J'y serais encore s'il n'y avait eu certaines filles, à moitié chinoises, un quart hawaïenne, un quart blanche. C'était une beauté, la pauvre, et elle avait de l'éducation. Sa mère était une millionnaire d'Honolulu. Bref, c'est cette fille qui m'a sauvé. Sa mère avait financé la colonie, vous comprenez, alors elle ne craignait pas d'être punie. Mais elle m'a fait jurer de ne jamais révéler leur cachette, et j'ai tenu parole. Vous êtes la première à qui j'en parle. Elle portait seulement les premiers signes de la lèpre. Elle avait les doigts de la main droite légèrement tordus et une tache sur le bras. C'était tout. Je suppose qu'elle est morte à présent.
Mais vous n'avez pas eu peur ?
Vous avez eu de la chance de pouvoir vous échapper sans attraper cette terrible maladie. Ma foi, j'avoue que je n'en menais pas large au début. Puis je me suis habitué et j'avais tellement pitié de cette malheureuse que j'en oubliais d'avoir peur. Elle était si belle, au physique comme au moral. Et elle n'était encore que très peu touchée. Elle était pourtant condamnée à végéter là jusqu'à la fin de ses jours, en pourrissant lentement. La lèpre est pire que vous ne l'imaginez.
« La pauvre, » murmura Ruth. « C'est incroyable qu'elle vous ait laissé partir. »«
Que voulez-vous dire ? » s'étonna Martin.
« Eh bien, elle devait être amoureuse de vous. Non ? Soyez franc. Elle ne l'était pas un peu ?»
À force de vivre enfermée, Martin avait perdu son hâle et la faim et la maladie lui avaient même donné le teint blême. Une rougeur teinta sa pâleur. Il ouvrit la bouche pour parler, mais Ruth le fit taire.
« Ne répondez pas, c'est inutile, » dit-elle en riant.
Mais son rire semblait forcé.
métallique, et ses yeux restaient froids. Sur le moment, cela lui rappela une tempête qu'il avait essuyée une nuit dans le Pacifique Nord. Il revit la scène, le vent, le ciel sans nuages, le clair de lune et les lames immenses qui scintillaient comme de la glace. Puis il revit la fille dans le refuge de lépreux et se souvint que c'était par amour pour lui qu'elle l'avait laissé partir. « Elle était noble, » dit-il simplement. « Elle m'a sauvé la vie. » Ce fut tout. Il n'en parla plus. Mais il entendit Ruth étouffer un sanglot et remarqua qu'elle détournait les yeux vers la fenêtre. Quand elle osa de nouveau le regarder en face, la tempête était passée. « Je ne suis qu'une sotte, » dit-elle d'une petite voix, « mais c'est plus fort que moi. Je vous aime tant, Martin, je vous aime tant. Je serai plus sage avec le temps, mais pour l'instant, je ne peux pas m'empêcher d'être jalouse des fantômes du passé, et votre passé est plein de fantômes. » Il voulut protester, elle l'arrêta. « Si, si, ne dites pas le contraire. Il ne peut pas en être autrement. Et ce pauvre Arthur qui m'attend dehors, il doit s'impatienter. Maintenant, au revoir, mon chéri. » Elle se retourna sur le pas de la porte pour lui dire « Il y a une mixture préparée par les pharmaciens qui aide les hommes à cesser de fumer. Je vous en enverrai. » La porte se ferma, puis se rouvrit. « Je vous aime, » murmura-t-elle. Et elle disparut. Martin, qui, tout en vénérant Ruth, avait l'œil sur l'étoffe et la coupe de sa toilette, une coupe étonnante au chic mystérieux, la raccompagna jusqu'à sa voiture. Les gamins attroupés regardèrent l'attelage s'éloigner avec regret et reportèrent leur admiration sur Maria, qui était devenue en un instant le personnage le plus important du quartier. Ce fut un de ses propres enfants qui détruisit le mythe en déclarant que les visiteurs de luxe étaient en réalité venus pour son locataire. Après quoi, Maria retourna à ses ténèbres et Martin gagna un respect inattendu de la part du menu fretin du voisinage. Il remonta de 100% dans l'estime de Maria et, si l'épicier portugais eût assisté à l'arrivée de la voiture, il eut sans hésiter ajouté 3 autres dollars et 85 cents au crédit de Martin.